Bienvenue pour ce nouveau numéro du Temps de la Ville. Aujourd'hui, je vous propose de parler des énergies renouvelables et plus particulièrement de l'énergie éolienne. Après l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima et l'anniversaire des 25 ans de Tchernobyl, on l'a bien compris, il devient maintenant nécessaire de trouver des alternatives au nucléaire tout en revoyant notre façon de consommer l'énergie. Les énergies renouvelables et le développement durable sont les préoccupations de la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne, fusion récente de trois directions régionales, celle de l'environnement, celle de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, et enfin celle de l'équipement. Une nouvelle structure qui pilote sous l'autorité du préfet de la région les politiques publiques du développement durable, issues des engagements du Grenelle Environnement. Pour tout savoir sur l'énergie éolienne et les autres énergies alternatives au nucléaire en Bourgogne, nous avons interrogé François Bellouard, chef du service développement durable au sein de la DREAL Bourgogne. François Bellouard, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la DREAL Bourgogne ?
La DREAL Bourgogne est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. C'est un service de l'État à l'échelle régionale qui regroupe toutes les politiques en matière d'aménagement, en passant par les risques, la politique du logement, des transports, la politique air, énergie, climat et la promotion du développement durable.
Et en quoi consistent vos missions en tant que chef de service du développement durable ? Pour résumer, bien sûr.
Oui, donc c'est un peu vaste, mais on va dire les missions principales sont tout ce qui est la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement en région Bourgogne, la question de la promotion du développement durable, la politique air, énergie, climat et tout ce qui est lié à la ville durable.
Pour ce qui est de l'énergie nucléaire, on en entend beaucoup parler en ce moment de façon plutôt négative. Déjà avec l'accident de Fukushima et puis l'anniversaire très récent de l'accident à Tchernobyl. Et oui, ça fait 25 ans. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont, en résumé, les alternatives à l'énergie nucléaire ?
Aujourd'hui, il y a plusieurs sources de production d'énergie. Donc effectivement, vous avez l'énergie nucléaire qui, en France, constitue une part très importante, en particulier de la production d'énergie électrique. Mais vous avez aussi donc les productions d'énergie électrique à partir de charbon, de gaz, de pétrole, hein, qui sont plutôt les énergies, ce qu'on appelle les énergies carbonées. Et puis vous avez tout ce qui est d'origine renouvelable. Alors la liste est très longue, on a tendance à se focaliser souvent sur une ou deux, en particulier l'éolien, mais la liste est très longue et tout dépend un peu du potentiel du territoire sur lequel on se trouve. Ça peut aller de la biomasse, de l'hydroélectricité, du solaire photovoltaïque, mais en tout cas, les sources sont très diverses et il faut surtout pas, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, se limiter à une source de production d'énergie, puisque c'est là que les problèmes peuvent commencer si on est limité à une seule source de production.
On reviendra sur les différents types d'énergie comme alternative au nucléaire. Mais parlons tout d'abord en particulier de l'énergie éolienne, donc celle dont on parle le plus en ce moment, qui est de plus en plus développée sur la région. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout bêtement le fonctionnement d'une éolienne ?
Alors, juste une petite remarque avant de rentrer sur les énergies renouvelables. Je voulais quand même rappeler que les événements récents de Fukushima, avant de se poser la question du nucléaire, pose une première question qui est la consommation d'énergie. La première chose qui doit nous interpeller, c'est d'abord notre dépendance à l'énergie. Et donc, la première question, c'est d'abord la maîtrise de l'énergie. Comment réduire nos consommations d'énergie ? Et après, quelle solution ? Alors, l'éolien, c'est relativement simple. C'est-à-dire, vous avez du vent, vous avez des pales. Le vent fait tourner les pales font tourner une turbine, la turbine transforme l'énergie du vent en énergie électrique, que l'on rabat ensuite sur le réseau de circulation électrique classique de RTE, donc réseau de transport électricité ou de RDF. Et puis, après, quand vous allumez votre lumière, vous savez pas si l'énergie qui arrive à votre interrupteur est de l'énergie qui provient du nucléaire ou de l'éolien, très schématiquement.
Et comment mesure-t-on précisément la puissance d'une éolienne ?
Bon, vous avez des ordinateurs de bord, hein, dans les appareils, dans les éoliennes. Globalement, une éolienne, en dessous d'une certaine force de vent, elle ne tourne pas. Tant que vous êtes en dessous de 4 mètres secondes à peu près, l'éolienne ne tourne pas. C'est pour ça que des fois, vous vous baladez en France et vous voyez des parcs qui sont arrêtés. C'est juste la force de vent n'est pas suffisante. Ensuite, l'éolienne se met à tourner. Elle a une puissance qui va croissante, c'est-à-dire que son efficacité est meilleure quand on arrive à une certaine puissance de vent. Et puis, on arrive ensuite à un plateau, et quand le vent est trop important, les éoliennes se mettent en arrêt, en fait, hein, pour éviter tout problème d'accident. Et donc, à partir d'une certaine force de vent, les éoliennes s'arrêtent aussi.
Et quels sont les bienfaits, en fait, de l'énergie éolienne ?
Les bienfaits, c'est d'abord que ça utilise une énergie qui est infini, puisque finalement c'est l'énergie solaire. Puisque s'il y a du vent en France, c'est parce que, ou sur la Terre, c'est parce qu'il y a le soleil qui produit de l'énergie, et donc derrière tout un phénomène climatique qui engendre du vent. Donc l'énergie solaire est infinie, en tout cas à l'échelle de notre courte vie ou des courtes vies des générations futures. Donc déjà, c'est un premier élément. Deuxième élément, on va dire que dans un système de fonctionnement normal, une éolienne en France, à un endroit où il y a un vent correct, en 6 mois de fonctionnement, elle aura remboursé l'énergie nécessaire pour la construire. Donc après 6 mois, c'est tout bénef.
Oui, ça fait
en matière d'énergie nécessaire pour la construire. Et puis évidemment, c'est une énergie qui est décarbonée, c'est-à-dire qui n'est pas émettrice de CO2, une fois qu'on a remboursé son capital construction. Et forcément, dans une période actuelle où il y a un consensus à peu près général sur le réchauffement climatique, ou en tout cas que le fait d'augmenter les quantités de CO2 dans l'atmosphère ne pourront qu'augmenter le réchauffement climatique sur Terre, et donc avec un souhait international de réduire au maximum le réchauffement, toute énergie renouvelable non émettrice de CO2 est plutôt un bienfait. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas, pour autant, il peut y avoir des inconvénients, mais c'est une énergie décarbonée.
L'investissement d'un parc, quand même, c'est assez conséquent, mais est-ce que c'est si cher que ça ?
Non. Sur le fond, c'est pas si cher que ça. Il faut tabler en investissement sur de l'ordre de 1 à 1,5 million d'euros par mégawatt. Une éolienne aujourd'hui, telle que celle qu'on va construire aujourd'hui en Bourgogne, sont des éoliennes de 2,5 mégawatts. Donc vous tablez entre 2 et 4 millions d'euros par éolienne. Donc ça peut paraître important, mais on va dire que c'est un parc en 6, 7, 7 ans, c'est rentabilisé. Donc avec une durée de vie aujourd'hui estimée minimum à 20 ans, vous voyez que vous avez facilement un retour sur investissement. Et puis, un autre élément qui est nécessaire d'aborder, on abordera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, c'est le tarif d'achat de l'énergie éolienne est très proche du tarif réseau de l'électricité normale. Donc ça devient quasiment, on est très très près, à quelques années près, d'une rentabilité sans besoin d'un apport de financement public.
Et à quoi ressemble un parc éolien, en fait ? Je pense aux auditeurs qui, peut-être, n'imaginent pas bien à quoi ça peut ressembler. Il y a vraiment des éoliennes à perte de vue, ou il n'y en a peut-être pas tant que ça. Je parle notamment des parcs éoliens en Bourgogne, bien sûr.
Bah, vous avez deux types de parcs en Bourgogne aujourd'hui. Bah, vous n'en avez que deux qui sont en fonctionnement aujourd'hui. Le parc de Saint-Seine, qui tourne autour de 20-25 éoliennes. Donc ça commence à être un beau parc. Et le parc de Beuré-Bouguer, qui est plutôt autour de 6 éoliennes. Généralement, en France, les parcs varient dans cet ordre de grandeur-là. Il y a des pays aujourd'hui où, si vous vous baladez un petit peu à l'étranger, alors en évitant de prendre l'avion parce que c'est mauvais pour votre bilan carbone, mais si vous faites un voyage en vélo en Espagne, vous aurez l'occasion de voir des parcs beaucoup plus importants. Et puis si vous allez aux États-Unis, vous pourrez voir des champs. En France, on est plutôt sur des parcs de taille moyenne. 6-8 éoliennes, en gros, c'est ce qu'on estime le minimum pour rentabiliser un parc par rapport au coût de raccordement au réseau, puisque forcément, il faut se raccorder à un réseau. Les réseaux sont parfois un peu loin, donc ça coûte un montant important, il y a des travaux, donc c'est à peu près la taille minimum. 25 éoliennes, ça commence à être un beau parc. Voilà, aujourd'hui, ça c'est l'ordre de grandeur. Ensuite, à quoi ça ressemble ? C'est des éoliennes qui font aujourd'hui 150 mètres de haut en hauteur de pale, des éoliennes plutôt de couleur blanche, qui tournent. Alors après, l'esthétique, on y reviendra sûrement, c'est une question personnelle. Mais ce qui est surtout important dans un parc éolien, c'est la capacité à s'adapter au site sur lequel on est implanté. Moi, ce que je trouve le plus fondamental, c'est que quand on se promène à côté d'un parc ou quand on passe en voiture à côté d'un parc ou en vélo, on puisse le comprendre, le parc. C'est-à-dire que dans le chemin qu'on emprunte, généralement les chemins les plus courants, les GR, les routes départementales, on ait une compréhension du parc, c'est-à-dire qu'il y a une certaine logique, pas des croisements entre éoliennes, plutôt des continuités. Alors, on retrouve des fois des projets en ligne, en courbe, en poké, ce sont des petits regroupements. Quand un parc est désorganisé par rapport à la structure paysagère dans laquelle on circule, ça devient beaucoup plus prégnant dans le paysage. Alors que s'il vient former le contour du paysage dans lequel on est, c'est beaucoup plus facile à lire et souvent, comment dire, beaucoup mieux apprécié.
Apparemment, il y aurait deux autres parcs en projet en Bourgogne ?
Où il y en a beaucoup plus.
Beaucoup plus.
Alors, il y a des parcs qui sont en construction. Il y en a un dans Lyon, les éoliennes sont d'ailleurs, certaines sont montées. D'autres qui sont sur le point d'être construits. Et puis, vous avez quand même beaucoup de parcs qui ont été accordés, autorisés au titre du permis de construire. La difficulté aujourd'hui, c'est que un projet de parc éolien est systématiquement mis au contentieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toujours une opposition. Donc si on refuse un permis, généralement, le porteur de projet attaque toujours. Et si on accorde un projet, généralement, il y a toujours une association qui attaque le projet pour différentes raisons. Donc aujourd'hui, vous avez de l'ordre de 450 mégawatts d'éoliennes qui sont accordées au titre du permis de construire. 450 mégawatts, ça fait de l'ordre de 200-250 éoliennes qui sont potentiellement constructibles à l'heure actuelle sur la Bourgogne, mais avec encore un certain nombre de contentieux qui sont non tranchés. Donc des fois, ça a été jugé au tribunal administratif et ça va à la cour administrative d'appel. Voilà, donc il y a un peu tous les stades, mais il y a un certain nombre de projets en liste d'attente en tout cas.
Alors, il y a une usine fabricante de mâts d'éoliennes à Longwy, qui s'appelle Céole. Est-ce que c'est eux qui fournissent pour tous ces parcs les mâts pour les éoliennes ?
Alors, je ne sais pas s'il faut que je dise malheureusement non, si on est chauvin, bourguignon, au possible. Mais aujourd'hui, ceux qui contrôlent l'éolienne, entre guillemets, hein, qui ont le monopole, c'est ceux qui font la turbine. Et donc, généralement, les gens qui font la turbine s'associent avec un constructeur de mâts. Donc, Céole n'est pas associé à tous les constructeurs de turbines, qui sont généralement des entreprises extérieures à la France, qui se sont lancées dans l'éolien avant nous. Donc, on va dire que les trois grands pays producteurs sont le Danemark, l'Allemagne et l'Espagne. La Chine commence aussi, mais aujourd'hui en France, on voit plutôt des turbines d'origine allemande, danoise ou espagnole. Et donc, Céole n'est pas... produit un certain nombre de mâts. Certains peuvent être en Bourgogne, mais tous les parcs bourguignons ne seront pas fournis par les mâts de Céole.
Donc nous, en France, en fait, on est un petit peu en retard à ce niveau-là.
On est en retard à la fois sur la filière industrielle, c'est-à-dire qu'on est plutôt des contributeurs à l'éolienne, c'est-à-dire les mâts, les systèmes de rotation et ainsi de suite. On n'est pas les crocs que je viens d'expliquer tout à l'heure, les grands maîtres de la construction de l'éolienne. Et puis on peut considérer aussi qu'on est en retard sur l'implantation des éoliennes par rapport à d'autres pays qui ont une production bien supérieure à la nôtre en termes de mégawattheure électrique, ou gigawattheure électrique, qui est dû au fait qu'on est allé beaucoup plus tard sur l'éolien. Alors, on a une forte croissance depuis ces 3-4 dernières années en France, mais on est encore loin du niveau de production d'énergie que peut avoir l'Espagne, l'Allemagne ou le Danemark. Et pourtant, on a des conditions climatiques bien plus favorables à l'Allemagne en matière d'éoliennes.
Et en parlant justement de la Bourgogne, c'est une région qui a un bon potentiel éolien ?
Alors tout dépend ce qu'on entend par bon potentiel éolien. Le potentiel éolien, il dépend de beaucoup de choses. Il dépend d'abord du vent. On va dire que plus il y a de vent, plus une éolienne produit. Donc dans le cas présent, la Bourgogne n'est pas une région qui est la plus ventée de France. On va dire que Languedoc-Roussillon, Bretagne sont les régions les plus ventées. Par contre, l'intérêt d'implanter des éoliennes en Bourgogne, c'est que, comme vous le savez, les éoliennes, ça fonctionne par intermittence et on ne contrôle pas leur fonctionnement. Donc l'idéal, c'est d'avoir les éoliennes réparties un peu sur tout le territoire parce qu'en fait, on a trois régimes de vent différents. En France, on a un régime de vent méditerranéen, on a un régime de vent atlantique et on a un régime de vent continental. Donc si on met toutes les éoliennes en Languedoc-Roussillon, s'il n'y a pas de vent en Languedoc-Roussillon, il n'y a pas de production. Tandis que si on en met un peu partout sur le territoire, et bien même si ça souffle pas dans le sud et ça souffle pas à l'ouest, ça souffle dans le centre. Et donc c'est un intérêt pour mettre des éoliennes en région Bourgogne. Après, le potentiel, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Il y a le paysage, la biodiversité, la capacité des réseaux. Il y a plein d'autres éléments. Et donc la Bourgogne n'est pas plus mauvaise qu'un autre pour accueillir de l'éolien. Il y a un potentiel réel. Et dans les objectifs français d'atteindre 23% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie finale, on va dire qu'en Bourgogne, sans éolienne, on n'y arrivera pas.
On parle d'Atlas éolien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce que c'est, l'Atlas éolien ?
Alors, aujourd'hui, vous avez un document qui existe depuis déjà un certain nombre d'années, qui est un document qui avait été construit entre le Conseil régional de Bourgogne, les services de l'État à l'époque, la DRIR, la Direction régionale de l'industrie, et la DIREN de l'environnement, qui aujourd'hui ont fusionné pour créer l'ADREAL. Et puis l'ADEME. C'est un document qui avait pour vocation, justement, de superposer toutes les couches d'enjeux sur le territoire. Donc, ces fameuses couches de vent, les servitudes d'utilité publique, les couches de zones de biodiversité, et qui donnait une idée des zones d'implantation qui avaient le moins d'enjeux, entre guillemets, qui semblaient les plus faciles pour installer une éolienne. Alors ce schéma, il avait cet atlas, il n'avait pas de valeur réglementaire. Et aujourd'hui, la loi Grenelle 2 a modifié les textes et nous oblige, dans le cadre de l'élaboration du schéma régional climat-énergie qu'on est en train de mener aujourd'hui, de réaliser un vrai schéma de l'éolien, un schéma de l'éolien en Bourgogne qui aura une valeur d'opposabilité, c'est-à-dire que toutes les communes que l'on n'affichera pas comme potentiellement pouvant accueillir de l'éolien ne pourront instaurer une zone de développement de l'éolien. La zone de développement de l'éolien, c'est une zone définie par les collectivités qui permet à ce qu'un promoteur privé ou une collectivité ou un groupe d'habitants qui souhaitent construire une éolienne puisse avoir l'obligation de rachat électrique.
Et quel est le rôle de la DREAL dans ces projets de parc éolien ?
Alors, on a plusieurs rôles. On a premièrement le rôle d'élaboration de ce fameux schéma régional éolien. Donc là, on est en plein dedans. Aujourd'hui, on est en plein séminaire, atelier, en gouvernance à 5, en essayant justement d'associer collectivités, associations, puisque c'est un sujet qui est, on le sait, un peu sensible. Et puis, donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, on a un rôle dans l'instruction des zones de développement de l'éolien, puisqu'on est le service qui, pour le préfet de région, instruit les dossiers de demande de zones de développement éolien déposés par les collectivités. On fait l'instruction et on propose des avis au préfet de région, favorables ou défavorables. Et puis bien sûr, c'est nous d'ailleurs qui, en cas de contentieux sur ces zones de développement éolien, avons un rôle de conseil auprès du préfet. Le troisième volet, c'est que parfois on nous sollicite sur des avis de permis de construire, on nous sollicite pour des avis classiques de l'État, mais surtout, on est sollicité pour les avis d'autorité environnementale, puisque tout projet de permis éolien est soumis à étude d'impact. Et quand il y a étude d'impact, il doit y avoir un avis d'une autorité indépendante. Et donc la DREAL est le service en charge de l'élaboration de cet avis autorité environnementale, qui est ensuite soumis à l'avis du préfet de région.
Le temps de la ville marque une courte pause, le temps d'écouter Ragged Wood des Fleet Foxes. On se retrouve tout de suite après pour parler énergie renouvelable avec François Bellouard.
Jonathan and
De retour dans le temps de la ville pour parler énergie renouvelable et développement durable avec François Bellouard, chef du service développement durable à l'Adréal. Est-ce qu'il est vrai que l'éolien permet la création de plusieurs emplois? On a parlé même de cluster éolien.
Tout à fait. Alors, effectivement, en région Bourgogne, vous avez parlé de Céol tout à l'heure. Céol est une entreprise qui est à l'initiative de la création d'un cluster éolien. Donc, il regroupe en fait un certain nombre d'entreprises en Bourgogne qui, d'une manière ou d'une autre, interviennent dans la fabrication des éoliennes par certaines pièces et qui constitue en fait un nombre d'emplois relativement important pour la Bourgogne et qui au niveau national, sauf erreur de ma part, on est à 10% des emplois de la filière éolienne en Bourgogne. Ça représente 1000 emplois à peu près en Bourgogne.
Oui, c'est quand même important.
Avec un potentiel de croissance si on va vers développement fort du parc dans les années à venir.
Alors malgré tous ces avantages, il y a tout de même apparemment des inconvénients et des mécontents. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, voilà, justement, il y a des personnes qui refusent l'installation d'éoliennes? Est-ce que c'est le bruit? Est-ce qu'il y a un danger? Notamment, j'entends, pour les oiseaux, il y a même des associations pour les chauves-souris, apparemment, ça gênerait.
Alors, il y a plusieurs, les éoliennes, évidemment, compte tenu de leur dimension, ont un impact. Alors l'impact, ça peut être négatif comme ça peut être positif, mais en tout cas ont un impact. Donc aujourd'hui, à travers les permis de construire et demain à travers les ICPE, les installations pour la protection de l'environnement, puisque suite au Grenelle, elles vont basculer dans le régime des ICPE, il y a un certain nombre de points qui sont analysés attentivement. Vous avez bien sûr le paysage, on a déjà un peu parlé. Donc certaines personnes effectivement estiment que une éolienne dénature aujourd'hui le paysage. C'est clair qu'elle a un impact, elle est visible. Après, est-ce que c'est dénaturé ou qui vient apporter un élément nouveau? Ça vient apporter un élément nouveau, à voir après comment le projet est construit, comme je l'expliquais tout à l'heure. Ensuite, vous avez les questions du bruit. Aujourd'hui, une éolienne, ça tourne. Il y a un moteur dedans, il y a une turbine. Donc, quand ça tourne, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, mais c'est très faible. Assez faible. Donc ça, c'est le premier phénomène de bruit. Le deuxième, c'est le vent. Hein, le passage des éoliennes qui tournent engendre un phénomène de bruit. Donc, dans les études d'impact, on analyse, fait des mesures, on fait des simulations de bruit par rapport aux habitations les plus proches. Généralement, donc, on considère qu'au-delà de 500 mètres, globalement, on s'en sort. Mais en tout cas, il y a une réglementation à respecter en matière de bruit, une réglementation nationale, qui fait que l'implantation d'un parc éolien ne doit pas engendrer un surplus de bruit supérieur à 5 décibels le jour, 3 décibels la nuit, mais en tout cas, il y a des analyses de bruit qui doivent être réalisées. Vous avez effectivement l'impact sur la vie faune, ce qu'on appelle les oiseaux. Donc, il y a plusieurs études aujourd'hui qui montrent qu'il peut y avoir parfois des impacts, mais globalement, c'est relativement faible, mais ça dépend surtout du lieu dans lequel on se trouve. Et c'est sûr que si vous implantez un parc éolien 500 mètres après le départ de grues, qui sont généralement, qui viennent se poser dans un lac juste à côté et que tous les ans, elles démarrent et puis elles décollent 500 mètres avant, comme c'est des oiseaux qui sont lourds et qu'il faut un certain temps pour décoller, il peut y avoir des soucis. Par contre, généralement, les grues, ça vole beaucoup plus haut que la hauteur d'une éolienne. Et une fois qu'elles ont, on a une distance suffisante, justement, des zones de départ, les risques sont nettement moins élevés. Et aujourd'hui, c'est vrai que on attend du porteur de projet de faire une analyse de la vie faune, de la population en termes de, d'oiseaux qui circulent à proximité du lieu possible d'implantation, de regarder quels sont les impacts possibles, et puis de faire une analyse aussi au fur et à mesure de la vie du parc, quitte à, par moment, mettre en arrêt les éoliennes dans des périodes très courtes où il peut y avoir un risque. La question des chiroptères aussi, donc des chauves-souris, est abordée. On a aujourd'hui pas non plus des études qui nous montrent qu'il y a des nombreuses chauves-souris qui sont tuées. Ça peut arriver, ça dépend du type de chauves-souris. Donc il y a un certain nombre d'impacts qui sont demandés à être analysés. En termes de santé publique, honnêtement, il n'y a pas de risque majeur. On va dire qu'à partir du moment où vous avez analysé cette question du bruit, vous avez traité une grande partie de la question. Vous avez aussi la question de l'impact sur les radars, voire sur les émissions télé. Donc ça arrive, c'est effectivement que des parcs aient engendré des problèmes pour des personnes qui n'étaient pas très loin pour capter les émissions télé. Donc après, le porteur de projet se doit de mettre en place un certain nombre de mesures pour limiter ces impacts.
Alors comme vous l'avez dit, votre mission parmi d'autres, c'est aussi d'élaborer les politiques de l'État en matière de logement, ainsi que de contribuer à l'éducation des citoyens aux enjeux du développement durable. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'habitant dans sa maison, dans son appartement, sachant que les deux sont différents quand même, pour aider au développement durable en polluant moins tout en économisant?
Alors la question est vaste.
Oui.
Tout dépend si on se limite à la question de l'énergie ou si on va un peu plus loin. Ce que je vous disais tout à l'heure, là, dans un avenir qui tourne autour de 2050, on s'est fixé une ambition du facteur 4, qui est divisé par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, c'est forcément une révolution par rapport à aujourd'hui, une révolution qui doit se faire sans pour autant qu'on revienne en arrière quelque part sur le confort de vie. Sinon, je pense qu'on n'arrivera pas à avoir l'adhésion des citoyens. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver un certain nombre d'actions qui vont vers ce facteur 4, tout en mobilisant les acteurs locaux. Donc ça passe d'abord par la question de la maîtrise de l'énergie. Donc il y a plein de petites choses qui peuvent être faites dans sa maison. Alors quand on est locataire, parfois c'est plus compliqué, mais en tout cas, rien que déjà en tant qu'habitant, on connaît tous les histoires des lampes à basse consommation. Ça, c'est un premier élément. En gros, vous divisez par 4 votre consommation d'énergie en changeant une lampe à incandescence et une lampe à basse consommation, mais c'est qu'un tout petit élément. Si vous prenez la température de chauffage de votre bâtiment, aujourd'hui, il est clairement reconnu que la température idéale de vie dans un bâtiment, c'est 19 degrés. 19 degrés, si vous posez la question à une salle de 50 personnes qui chauffe à 19 chez soi, vous allez avoir 1, 2, 3 mains qui vont se lever. Pourtant, c'est quelque chose c'est bon pour votre portefeuille et c'est meilleur pour votre santé. Même si les gens ont tendance à dire 19, il fait froid, vous mettez un pull et c'est tout à fait raisonnable de vivre avec un pull. Et pour vous donner une idée, en gros, vous baissez d'un degré la température chez vous, vous gagnez 7% sur votre facture énergétique.
Oui, c'est
donc
important.
Les gens qui chauffent à 22, qui passent à 19, vous allez gagner entre 21, 22, 23% sur votre facture. Quand on voit qu'on vient de prendre 30% dans le chiffre du gaz, ça vous donne une idée.
Faut peut-être y réfléchir, oui.
Ça, c'est plein de petites choses comme ça. Bien sûr, toutes les questions liées à la consommation d'eau, puisque entre ce que vous consommez sur votre robinet et toute l'énergie qui est nécessaire derrière, c'est pas uniquement le volume que vous gagnez, c'est tout ce qui est derrière, toute l'énergie nécessaire pour faire venir votre eau sur votre territoire. Donc, il y a plein de petites actions comme ça, mais l'intérêt, et c'est pour ça que dans le cadre du schéma régional climat et énergie, on a souhaité mettre une partie spécifique sur l'éducation au développement durable. C'est-à-dire que ça nous semblait très important d'associer le citoyen dans cette question du changement de comportement et d'atteindre de ces objectifs, les 3x20 en 2020, le facteur 4. Vous avez aussi toute la question de la mobilité. Aujourd'hui, vous avez 50% des déplacements qui se situent à moins de 3 km. Donc, le vélo, c'est un bon outil. Il pleut pas si souvent que ça dans l'année. 30 jours par an en Bourgogne l'année dernière. Donc, vous pouvez y aller, vous risquez pas grand-chose. Voilà, plein de petites actions possibles.
Le temps de la ville revient tout de suite après pour parler énergie renouvelable et développement durable. Le temps d'écouter Moby et son Natural Blues.
Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
De retour dans le temps de la ville pour parler énergie renouvelable et développement durable avec François Bellouard, chef du service développement durable à l'Adréal. On a parlé donc beaucoup de l'éolien, mais il y a d'autres alternatives, d'autres énergies renouvelables. Alors, il y a l'énergie hydraulique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour résumer, de quoi il s'agit ?
Alors, l'énergie hydraulique, c'est en France la plus grosse source d'énergie renouvelable, en tout cas en matière électrique. On dispose d'un parc de barrages très important en France, en particulier dans les régions Rhône-Alpes, en région PACA. Le principe, c'est que on stocke, ou en tout cas on profite de la force de l'eau, la chute d'eau, pour faire tourner une turbine et engendrer de l'électricité. Donc plusieurs solutions, on crée des gros barrages, ou alors on profite d'une chute d'eau, où on crée un petit ressaut dans une rivière pour mettre une centrale une micro-centrale électrique. Alors en Bourgogne, le potentiel est relativement faible. Il a été, on va dire, assez largement exploité. Vous avez un certain nombre de barrages qui existent, en particulier dans le Morvan. Pour demain, pour atteindre les 23% de VNR en Bourgogne demain, c'est pas forcément la source la plus importante. Il reste un petit potentiel de l'ordre de 5-7 gigawattheures. Je sais pas si je vous parle quand je vous dis ça. En gros, c'est 0,1 pour 100 de ce que l'on doit faire. Puisque, si on revient un petit peu là-dessus, il faudrait au minimum augmenter de 6000 gigawattheures la production d'énergie renouvelable, c'est-à-dire faire 2,5 fois ce qu'on fait aujourd'hui en Bourgogne d'ici 2020. Et donc l'hydroélectricité, il ne faut pas la négliger, mais c'est très faible. Et puis ça pose aussi des questions en termes de préservation des trames bleues, c'est-à-dire le franchissement des rivières par les poissons, qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que, comme l'éolien, il n'y a pas de solution miracle, il y a toujours des avantages, des inconvénients. Donc voilà.
Il y a aussi la biomasse. De quoi s'agit-il ?
Alors, la biomasse, pour le coup, en Bourgogne, c'est la source actuelle d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, vous prenez le bilan énergétique bourguignon, plus de 90% c'est de la biomasse. Alors, La biomasse, vous avez plusieurs formes d'utilisation de la biomasse. La plus répandue en Bourgogne, en gros, c'est l'utilisation du bois pour la production d'énergie thermique, c'est-à-dire pour le chauffage, avec une très très forte majorité de l'utilisation aujourd'hui en Bourgogne qui est liée à l'utilisation des habitants dans leur logement, soit de poêle à bois, soit d'anciennes cheminées. Alors cette production d'énergie a tendance à baisser ces dernières années parce que justement l'utilisation de bois-bûches a disparu progressivement. Quand les gens renouvellent complètement leur système de chauffage, généralement c'est des personnes âgées dans des vieux bâtiments qui préfèrent mettre une chaufferie au fioul ou chaufferie au gaz. C'est plus simple, vous n'avez pas à porter les bûches, on vous livre deux fois par an et puis c'est réglé. Ou alors parce que les nouveaux systèmes de chauffage, les nouveaux poêles à bois, sont nettement plus efficaces qu'avant. Donc avec moitié moins de bois, vous chauffez plus qu'avant. Donc forcément, la consommation a tendance à baisser de bois-bûches. Par contre, derrière, vous avez aussi le développement de chaufferies-bois collectives. On est passé de 80 chaufferies-bois dans les années 90, à aujourd'hui plus de 210 chaufferies-bois en Bourgogne. Des chaufferies-bois collectives qui vont soit chez les industriels, soit dans des collectivités pour fournir des réseaux de chaleur. Et là, généralement, on n'est plus sur du bois-bûche, on est sur de la plaquette, on est sur un autre type de production. Et ça, ça a tendance à se développer fortement. Et il reste un potentiel de développement important en Bourgogne. Puisque aujourd'hui, schématiquement, on consomme la moitié de la croissance de la forêt bourguignonne annuelle. Donc on se dit, dans l'autre moitié qui reste, il y a des choses à faire. Sachant que c'est pas simple, parce que le bois énergie, c'est qu'une partie du bois. Vous utilisez d'abord le bois pour faire de la production de meubles, pour faire de la production d'autres choses que du bois énergie. Le bois énergie, c'est les résidus, globalement, schématiquement. Et donc, il faut le reste de la filière pour que ça fonctionne. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les forêts bourguignonnes, pour vous donner une idée, un tiers, c'est de la forêt publique, gérée par l'ONF, donc avec une gestion effectivement assez optimisée du bois. Le reste, c'est de la forêt privée, avec un tiers pour des grands propriétaires de plus de 25 hectares. Et puis le dernier tiers, c'est 160 000 propriétaires avec une moyenne de 1,6 hectare. Donc pour mobiliser tous ces petits propriétaires, c'est beaucoup plus compliqué.
Il y a aussi l'énergie solaire. Et donc il y a deux types d'énergie solaire, si j'ai bien compris. Il y a l'énergie solaire thermique et l'énergie photovoltaïque. Quelle est la différence entre les deux? Surtout que l'énergie solaire, c'est aussi une qui est de plus en plus utilisée.
Alors vous avez raison, vous n'êtes pas trompé. Il y a bien deux sources de production d'énergie à partir du soleil. Alors elles sont toutes d'origine solaire, puisque...
Oui, en fait.
Le bois pousse grâce au soleil, le vent à cause du soleil. Bon, la géothermie, c'est parce qu'on
oui, c'est
à cause
vrai.
Du soleil. Mais effectivement, le photovoltaïque, vous avez l'énergie liée à la production de chaleur par les panneaux solaires thermiques. Donc généralement, ça, c'est plutôt, c'est même quasiment toujours pour lier pour le chauffage d'eau chaude, en fait. Hein. Donc vous avez des panneaux posés en toiture chez les habitants ou chez un industriel. Ces panneaux font chauffer un liquide qui va réchauffer l'eau et qui va vous permettre, d'apporter assez d'énergie pour chauffer votre eau chaude sanitaire, donc que vous utilisez pour la vaisselle, pour votre douche. Et donc aujourd'hui en Bourgogne, on veut dire on a suffisamment de soleil pour couvrir 60-80%, voire même plus, des besoins en apport d'eau chaude sanitaire. Donc ça, c'est le premier volet. C'est un volet qui est, à mon avis, très important de développer. Il y a un potentiel qui existe et autant il y a des pays qui aujourd'hui couvrent nettement plus que nous en termes d'utilisation de solaire thermique. Après, le deuxième volet, c'est le solaire photovoltaïque. Donc là, on produit de l'électricité à partir de panneaux solaires. Donc vous avez en fait deux grands types de production solaire, soit les grands parcs. Donc en gros, vous couvrez 10, 15, 20 hectares de surface. On va espérer qu'ils ne soient pas des surfaces agricoles. L'idée, c'est plutôt de couvrir des zones qui sont en friche, des parkings. Par exemple, les parkings Peugeot de stockage de véhicules. On couvre tout le parking de panneaux solaires. Hein, ça permet d'abriter les véhicules et ça permet d'avoir de la productivité sur le parking. Là, on est sur des grosses centrales, donc plusieurs mégawatts de production. Et puis, les autres, c'est le solaire électrique sur votre habitation. Où là, chacun peut effectivement installer des panneaux solaires électriques. Le principe, c'est généralement de revendre l'énergie produite par l'électricité à RDF. Donc vous la mettez dans le réseau, vous le revendez à un prix qui est extrêmement intéressant, et vous rachetez votre énergie électrique à un prix qui est nettement moins important. La problématique du solaire en France, c'est que on n'a pas de filière, on a très peu de filières de production de panneaux. Donc la volonté du gouvernement est de développer la filière, mais de développer un rythme pas trop important pour que ce soit les entreprises françaises qui arrivent à se mettre au niveau et à produire les panneaux, plutôt que les entreprises venant de pays où l'énergie utilisée pour produire les panneaux est plutôt d'origine carbonée. Donc on pense souvent à la Chine, mais il n'y a pas que la Chine. Et donc on essaie de fixer les tarifs d'achat de l'énergie électrique photovoltaïque de façon à réguler un petit peu la croissance. C'est pas simple, et on se rend compte que les tarifs qui ont été fixés les années précédentes ont créé un peu des bulles. Donc on a dû revenir dessus de façon peut-être un peu brutale. Donc dans certains cas, ça a pu poser des difficultés à un certain nombre de, en particulier chez les agriculteurs qui avaient fait des investissements pour des grandes toitures. Donc les nouveaux tarifs là sont calés, sont plus réguliers, et on va aussi passer par des appels d'offres.
Alors là, je reviens à l'éolien. Il va y avoir donc la deuxième édition du Congrès national éolien le 18 et 19 octobre prochain. Est-ce que l'ADREAL y participe? Ça sera au Palais des Congrès de Dijon, j'ai oublié de le préciser.
Aujourd'hui, l'ADREAL n'est pas intimement partie prenante de ce grand colloque. Nous sommes bien sûr au courant. Je pense que c'est un sujet qui est plus fortement porté par le Conseil régional et par justement ce cluster. Je pense que l'ADREAL, à un moment donné, y participera, plus en tant que porteur du schéma régional climat-énergie, puisqu'on est co-maître d'ouvrage avec le Conseil régional, et qu'on arrivera à cette période à la phase de concertation régionale, c'est-à-dire que ce document sera mis à disposition du public pendant cette période-là, et je pense que ce sera important que, à un moment donné, à travers un stand ou à travers une conférence, l'ADREAL puisse y participer pour expliquer quels ont été les choix qui ont été retenus en Bourgogne en matière d'énergie renouvelable. Je dis n'importe quoi, la moitié ou un tiers par l'éolien, un tiers par la biomasse, un quart par la méthanisation dont on n'a pas parlé, et ainsi de suite. Il faudra, à mon avis, ce sera l'occasion d'expliciter un petit peu au grand public quels ont été les choix retenus pour la Bourgogne.
Une dernière question, donc en ce qui concerne la Bourgogne, on va rester dans le local. En tant que chef de service du développement durable à l'ADREAL, est-ce que vous pensez que la Bourgogne, on est en bonne voie justement pour tout ce qui est énergie renouvelable, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire?
Alors, il y a beaucoup de progrès à faire, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en bonne voie. Comme je vous disais, les objectifs qui sont fixés, qu'on se fixe au niveau national européen, sont des objectifs qui sont à la fois ambitieux, mais qui sont qu'une première étape en 2020. Et donc, le pas à franchir est encore considérable. Pour autant, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on est vraiment parti. La biomasse est un sujet sur lequel on est bien parti à travers le plan énergie climat Bourgogne du Conseil régional et de l'ADEME. Il y a les questions du solaire où la région, en fait, pour vous donner une idée, on a multiplié par 20 la puissance installée en 2 ans sur le solaire. Donc il y a des choses qui ont avancé. L'éolien, on en a parlé. Il y a un certain nombre de permis en liste d'attente, hein. Mais je pense qu'on est encore loin du compte. Il faut se donner les moyens aujourd'hui, tous ensemble, à la fois les acteurs publics et institutionnels, mais à la fois aussi le citoyen. Et c'est tout l'intérêt de l'émission que vous avez aujourd'hui, hein, d'essayer de discuter autour de ces sujets, d'apporter les éléments, même si on a qu'effleuré, de concerter pour expliquer l'importance, hein, de ces énergies, même si aujourd'hui, on n'a pas, on dire, le schéma national de production d'énergie n'est pas remis en cause. En tout cas, même les ambitions qu'on se fixe, déjà sans parler du nucléaire, font qu'il faut développer les énergies renouvelables dans tous les cas, et qu'il faut aussi travailler sur la maîtrise de l'énergie de façon importante. Et le chemin est encore long à parcourir.
François Bellouard, merci.
Merci à vous de m'avoir accueilli et accordé ces quelques minutes d'entretien.
Ce temps de la ville consacré aux énergies renouvelables et à l'éolien en Bourgogne se termine. Pour tout savoir sur le développement durable et les énergies renouvelables en Bourgogne, contactez l'ADREAL par téléphone au 03 80 29 44 44 ou par mail adreal-bourgogne@developpement-durable.gouv.fr. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'ADREAL www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro du temps de la ville.